France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Bernard Focroule. Je suis né à Liège, en Belgique, en 1953, et je suis musicien.
Alors Bernard Focroule, vous êtes un homme engagé, quelqu'un aussi qui aime commencer, se lancer des défis. Il y a le festival Ars Musica. Qu'est-ce qui vous a donné l'appétit de créer ce festival? En quelle année?
Alors, là, on est à la fin des années 80. Et à la fin des années 80, en Belgique, on pouvait observer une forme de recul des pratiques musicales contemporaines. Les festivals qui avaient existé précédemment s'étaient considérablement essoufflés ou avaient disparu. Et puis, à l'inverse, on voyait en France Musica, qui avait donné un formidable élan à la musique contemporaine, en ramenant d'ailleurs la musique dans la cité, c'est-à-dire que pour Strasbourg et pour toute la région alsacienne, Musica, c'était vraiment une rencontre avec non plus les publics les Happy Few, les connaisseurs, c'était les publics mélomanes, et au-delà, on allait jouer même parfois dans les usines, enfin j'ai les souvenirs que Musica explorait aussi de non seulement la musique, mais de nouvelles manières de communication. Et donc, à la fin des années 80, un peu frustré par le manque d'initiative en Belgique, des deux côtés d'ailleurs, avec des amis, parmi lesquels Paul Dujardin, qui est aujourd'hui le directeur du Palais Beaux-Arts à Bruxelles, on décide de lancer un festival. On avait organisé en 88 un grand colloque à la Monnaie autour de Loulou, d'Almenberg. Et c'est un colloque qui avait réuni pas moins de 500 personnes. Il y a des gens qui étaient venus de toute l'Europe pour travailler là-dessus. Enfin, ça nous avait surpris. On s'est dit, il y a quand même il y a des choses à faire pour la musique de notre temps. Et on a créé en 89 ce festival Ars Musica, qui vit toujours. Et les premières années, Ars Musica a été... Je pense que ceux qui l'ont vécu, George Benjamin par exemple, pourra en parler, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, était un lieu assez extraordinaire.
En 1992, vous allez prendre la direction de la Monnaie à Bruxelles. D'où vous vient ce virus de l'opéra?
J'ai bien connu la Monnaie sous les deux directions précédentes, la fin de la direction de Maurice Huysmans, puisque j'avais participé notamment à la création d'Attitude, qui était un spectacle musical de Philippe Boussemans. C'était en 79, si je ne me trompe. On avait aussi été au Festival d'Avignon. Voilà, et donc j'ai connu cette Monnaie-là un petit peu, et puis arrive en 81 Gérard Mortier avec un projet de refondation de l'opéra, à la fois de refondation de la Monnaie, mais dans une certaine mesure, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, une nouvelle manière de penser l'opéra à notre époque, en lui redonnant un souffle, une dimension théâtrale, visuelle, interdisciplinaire, une forme aussi d'actualité très sensible, très pensé. Et différents hasards ou rencontres font que cette traversée de 10 ans de la Monnaie de Gérard Mortier, j'ai pu la vivre de près, de temps en temps en écrivant des articles pour les programmes ou en participant. J'étais assistant de Sylvain Cambrelin sur l'Orfeo de Gluck, j'étais claveciniste dans le couronnement de Poppée orchestré par Philippe Boussemans. J'ai été à quantité de répétitions, voilà. Donc j'ai pu suivre cette aventure dans une certaine mesure de l'intérieur, sans jamais penser pendant 8 ans qu'il m'adviendrait un jour de la diriger.
Alors c'est un sacré changement de vie, ça, c'était pas vraiment prévu.
Non, je peux dire que j'étais passionné de musique et tout à fait intéressé par l'opéra, même passionné d'opéra, et d'ailleurs de théâtre aussi, parce que je suivais pas mal la vie théâtrale en toute cette époque-là. Mais j'étais quand même, le ciel m'est tombé sur la tête quand un jour de mars 89, Gérard Mortier, j'étais à une répétition, je crois que c'était Parsifal à la Monnaie, et Gérard vient vers moi et me dit « Bernard, vous devriez penser à me succéder ». J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte là ?» Et il me dit « C'est pas impossible que voilà, je quitte la Monnaie et je pense que vous seriez la bonne personne pour me succéder ». Je viens de voir que vous avez créé Ars Musica, j'ai vu le journal, etc. C'est formidable, voilà. Mais à l'époque, il était toujours là, et bien là, sauf que 2 mois plus tard, Karajan décède, Mortier est nommé à Salzbourg, et j'ai passé tout le mois de septembre 89 à me dire j'y vais pas. Un jour c'était oui, un jour c'était non. Et je me disais, je prenais la mesure de toutes les contraintes qui allaient me tomber dessus et modifier ma vie, modifier notre vie familiale, la vie professionnelle, etc. Et en même temps, je voyais les enjeux derrière, à la fois d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue collectif. J'avais vu cette maison de la Monnaie grandir pendant 10 ans, et je me disais, si moi peut-être je peux apporter une contribution à ce qu'elle continue à vivre, dois-je dire non? Et j'ai fini par dire oui, et puis j'ai été nommé, et je suis resté 15 ans, voilà. Alors c'était une succession qui n'était pas facile, parce que succéder à Gérard Mortier, vous pouvez vous imaginer, c'est une personnalité hors norme, c'était une situation aussi en termes d'organisation de la maison et de financement, situation très difficile. Donc les 2 premières années ont été très intenses, à certains égards douloureuses, mais on a tenu le coup, et voilà, j'ai passé 15 années très 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 riches dans cette maison.
Bravo mon cher, succès complet. Notre maison doit être fière d'avoir parmi les siens un nouveau bossuet.
De grâce mon père, épargnez-moi.
Et c'est pour de bon, chevalier, que tu prétends au ciel pour jamais te lier.
Épouse quelque brave fille, digne de nous, digne de toi.
Bernard Faucroul, quand on prend la charge d'une maison, il y a évidemment d'en faire le programme, il y a toute la gestion humaine, et il y a une vision qui est importante, et puis il y a aussi une véritable responsabilité d'engagement, notamment de trouver un directeur musical. Je crois que Bernd Leub a été très important.
Absolument. Bernd Leub m'avait été suggéré par Gérard Mortier, c'était un conseil formidable, et il est devenu mon bras droit sur le plan artistique. Il est aujourd'hui à la tête de l'Opéra de Francfort, où il fait un travail formidable. Et pendant 10 années, nous avons formé une sorte de triumvirat avec Antonio Papano. C'était notre première mission commune, c'était de trouver un directeur musical.
Et comment vous l'avez trouvé, Papano?
Alors, forcément, j'ai cherché dans toute une série de directions. Et un jour, j'ai reçu un avis d'un jeune chef au nom italien, mais de nationalité américaine, qui venait d'être nommé directeur musical de l'Opéra d'Oslo. Et donc, ni une ni deux, on est allé avec Bernd Leub écouter... Un ballo in maschera à l'opéra d'Oslo. Et je peux vous dire qu'après 4 mesures, J'étais convaincu que c'était la personne qui nous valait. Il y avait une telle théâtralité, un tel engagement dans l'orchestre et dans la manière de suivre cette représentation. Et donc après, ça a quand même pris un certain temps de confirmer tout ça. Et puis on a passé 10 années assez exceptionnelles où Papano a fait travailler l'orchestre. Et puis il a un sens du travail avec les chanteurs qui est absolument extraordinaire. Les chanteurs l'adorent. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment révéler les artistes et leur permettre de donner le meilleur de ce qu'ils ont, même de ce qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'ils ont en eux. Donc de ce point de vue-là, ça a été formidable. On a pu travailler avec de très grands metteurs en scène, Luc Bondy à plusieurs reprises, Klaus Michael Gruber, dont j'ai parlé, les Hermann, et toute une série de personnages qui nous ont beaucoup enrichi. J'ai pu aussi mettre en route une très belle collaboration de longue durée avec René Jacobs pour la musique baroque. On a, avec Herbert Wernicke par exemple, fait une Callisto d'anthologie en 93. Il y a eu la création de Reigen de Philippe Boussemans et ça a été un petit peu le point de départ de la reconnaissance internationale de ce compositeur. C'était une magnifique collaboration avec Luc Bondy. Il y a eu la danse avec Anne-Theresa de Kersmacher, qui était chorégraphe en résidence à La Monnaie. De ce point de vue-là, avoir des artistes en résidence comme Philippe Boussemans, Anne-Theresa de Kersmacher, plus tard Fabrizio Cassol, je ne peux pas dire à quel point ces artistes ont été source d'inspiration, d'enrichissement, de découverte, de mise en réseau avec d'autres artistes, d'autres amis, etc. C'était des soutiens extrêmement importants. Il y a eu, par exemple, c'est Anne-Theresa qui m'a mis en contact avec Trisha Brown, qui a été aussi quelqu'un de très très important pour moi personnellement, et puis pour La Monnaie, et plus tard pour le Festival d'Aix. L'Orfeo, qui est la mise en scène en 98, pour moi reste un moment d'anthologie. Je crois que c'est peut-être la première fois que on voyait ce type de travail où chorégraphie, mise en scène, chanteur, danseur, tout ça faisait un tout absolument organique et parfaitement contrôlé, géré et extrêmement porteur de sens et d'une beauté absolument exceptionnelle. Voilà, c'était des compagnonnages et des rencontres absolument magnifiques. Et peut-être pour moi, sur le plan artistique, ce bain permanent de grands chanteurs, de grandes voix, de vocalités aussi diverses, a été une nourriture musicale absolument inimaginable.
Les grands entretiens de Bernard Focroul, France Musique.
Dans mon rapport à l'opéra, le travail d'équipe a occupé une place tout à fait centrale. Et pour une première raison incontournable, c'est que mon expérience, ma compétence dans le domaine de l'opéra ne me permettait pas d'être compétent sur tout. Sur la question des voix et du casting, j'avais besoin d'avoir quelqu'un de plus compétent que moi. C'était le cas de Bernd Loeb, c'est le cas aujourd'hui d'Alain Perroux. Une deuxième dimension beaucoup plus importante et plus fondamentale, c'est que l'opéra, qui est un art collectif, n'appartient pas qu'à la musique. Il est une mise en commun, au départ, de texte et de musique. Et d'ailleurs, le texte précède souvent la musique. Donc, il faut s'assurer que S'il s'agit par exemple d'une nouvelle œuvre que poète ou écrivain et compositeur puissent parler la même langue, se comprendre et avancer ensemble dans un projet commun. Et ensuite, une fois qu'on passe à la réalisation, que le chef d'orchestre et le metteur en scène, autant que possible, partagent une vision commune, ou en tout cas des visions qui puissent s'enrichir mutuellement. C'est pas toujours le cas. On trouve pas mal de cas aujourd'hui où le chef d'orchestre ne se préoccupe pas du metteur en scène ou l'inverse, et où chacun travaille dans son coin, avec parfois des relations de pouvoir qui sont, à mes yeux, assez déplacées, parce que l'opéra s'accommode mal de la dictature. J'ai des souvenirs de productions d'Antonio Papano, par exemple Peter Grimes, que Antonio Papano avait dirigé avec Willy Decker à la mise en scène, a été un moment extraordinaire. Nous avons vécu tous comme un moment absolument génial, parce que chacun des artistes, des interprètes, la Susan Chilcott par exemple dans le rôle d'Hélène, était au meilleur de soi-même, et il y avait une telle entente entre tous les éléments de la production que... Enfin, c'est une sorte de rêve qui devenait une réalité. Written on Skin de George Benjamin est né de la même manière, avec un sentiment d'harmonie du départ entre Martin Crimp et George Benjamin, et ça s'est retrouvé à toutes les étapes de la production, avec le travail avec les chanteurs, avec Katie Mitchell, la dimension visuelle, etc. Donc, mais il y a aussi des cas où, à un moment donné du processus, d'ailleurs c'est pas incompatible, il peut y avoir une entente, et à un moment donné, il peut y avoir un désaccord, voire un conflit. Et je pense que ce sont des moments très positifs, ça, du moment qu'on arrive à les surmonter et qu'on ne perd pas la communication, qu'on la garde toujours. Parce que l'opéra n'est pas forcément un genre qui s'accommode du compromis. Il faut de temps en temps qu'il y ait une friction, une dissonance même, entre... D'abord, c'est souvent le cas entre déjà le texte et la musique. Dans les œuvres, le texte et la musique disent pas toujours la même chose. Et ensuite, la manière dont un metteur en scène, dont certains chanteurs, dont certains chefs d'orchestre vont l'interpréter, font qu'on va encore partir ailleurs. Tout ça fait partie de la vie du monde de l'opéra. Et puis, parfois aussi, alors, les insuccès, voire les catastrophes, où la communication s'est arrêtée, chacun part de son côté et on a perdu quelque chose d'essentiel.
Bernard Faucroul, cette dimension du théâtre, elle est capitale, on le sent, c'est quelque chose qu'on retenait aussi de Gérard Mortier, qui fait qu'il y a cet appétit, il y a cette attente de faire que l'opéra, ce soit avant tout un art vivant, pas un objet de musée qu'on regarderait de cette façon-là. Pour tout ça, il faut des laboratoires. La petite forme que vous avez beaucoup défendue, est sans doute idéale.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, les petites formes, qu'il s'agisse d'opéra du répertoire ancien, du répertoire du XXe siècle, ou particulièrement d'œuvres nouvelles, elles nous sont absolument essentielles pour justement que l'opéra reste un art vivant. Les petites formes sont très souvent des occasions d'un travail d'une intensité, d'une exploration particulièrement intense. J'ai un souvenir, par exemple, absolument extraordinaire, du travail que Trisha Brown avait fait sur un opéra de Chiarino qui s'appelle Lucimi e Traditrici. Il y a trois chanteurs, quelques instrumentistes, une partition absolument magnifique. Et le travail que Trisha avait fait sur cet opéra était juste magique. J'aurais beaucoup de mal aujourd'hui, c'est évidemment pas la seule interprétation possible, mais c'était tellement prégnant pour moi que c'est difficile d'imaginer une autre mise en scène de cet opéra-là. La mise en scène de Luc Bondy sur le Tour d'écrou de Britten est également un moment d'anthologie. Et voilà, au Festival d'Aix, on a mis vraiment un accent sur ces petites formes, et notamment sur des opéras de chambre ou des petites formes qui puissent être confiées à de jeunes artistes qui vont pouvoir explorer l'opéra, ou même d'autres formes que l'opéra, mais des formes où musique, texte, vidéo, etc. peuvent dialoguer et créer des œuvres à la lisière du monde de l'opéra, je dirais. Quand Katie Mitchell et Raphaël Pichon ont décidé de travailler ensemble, enfin ont accepté mon invitation à travailler sur des cantates de Bach, ils ont produit quelque chose de, à mes yeux, d'absolument profond. Bach, vous savez à quel point pour moi c'est important. Bach n'est pas un compositeur qui écrit pour la scène. Donc le porter à la scène, c'est un acte fort, c'est une prise de risque. Et ils l'ont fait avec à la fois une audace, une créativité notamment dans le chef de Raphaël qui est allé chercher des œuvres, qui a construit un programme absolument formidable, et Katie qui a travaillé avec une économie de moyens maximale, mais en faisant sortir toute la dimension à la fois humaine et au-delà, puisque ce sont des cantates qui traitent de la mort, une représentation, un spectacle d'une émotion incandescente. Voilà, je trouve que beaucoup de maisons d'opéra auraient tout intérêt à davantage travailler ces petites formes. À Bruxelles, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à emmener le public dans d'autres lieux, dans des lieux plus petits, dans des salles de répétition parfois, dans des plus petits théâtres, et de sortir ainsi l'opéra de son cadre un peu majestueux. Je pense que c'est vraiment vital, parce que sinon le risque c'est de garder l'opéra dans sa majesté un peu superficielle. Ça c'est dangereux, je crois que l'opéra doit vraiment... On peut continuer à écrire bien sûr des opéras pour chœur, grand soliste et orchestre, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire, mais il ne faut pas que ça soit la seule manière de faire vivre l'opéra aujourd'hui.
Est vital pour l'opéra, c'est donc la création, Bernard Faucroule.
C'est absolument vital. Et quand vous prononcez le mot de création, pour moi, ça implique plusieurs choses. Ça implique bien sûr des commandes, et des commandes partagées, parce que je crois qu'il faut aujourd'hui faire voyager les œuvres.
Les coproductions, non ?
Les coproductions, des tournées, tout ce qui peut faire voyager les œuvres. On a beaucoup souffert, dans la seconde partie du XXe siècle, d'une surabondance de créations sans lendemain, des œuvres qui étaient créées et qui étaient oubliées la semaine qui suivait. C'est un gaspillage de moyens considérables. Il faut se souvenir que la première d'un opéra, c'est la fin d'un processus, oui, certes, mais c'est le début de la vie. Et si on ne se préoccupe pas de la vie qui va suivre, on ne remplit pas sa mission. Donc j'étais absolument ravi à La Monnaie de donner vie à des œuvres, à ces opéras de Philippe Boussemans, d'autres compositeurs, avec parfois des échecs. Luca Francesconi a écrit un magnifique opéra, Ballata, qui n'a jamais pu être pris en dehors de La Monnaie. J'ai trouvé ça dramatique, notamment qu'aucune maison d'opéra en Italie ne reprennent cette œuvre d'un compositeur italien majeur, d'un compositeur européen important aujourd'hui. C'était vraiment dommage. Mais à Aix, on a, je pense, réussi à ce que la quasi-totalité des productions en création mondiale voyagent assez intensément en Europe et même au-delà. Et Written on Skin a été donné dans les 2 ans qui ont suivi sa création dans une dizaine de théâtres en Europe. Aujourd'hui, était à l'affiche aux États-Unis, à Moscou, va bientôt aller en Chine. J'entendais l'autre jour l'éditrice parler des 200 représentations de cet opéra sur une période de 6 ans. Donc on est sur un rythme de circulation qui n'est pas loin d'évoquer celui des grands opéras du 19e, de Verdi par exemple, où très naturellement les ouvrages voyageaient. Voilà. Et on a besoin de ça, parce que on a besoin que le meilleur de ce qui se fait à notre époque soit vu, soit partagé par des publics différents. Mais la création, c'est aussi bien sûr le regard de grands interprètes qui ont en eux une part de création. Quand Pierre Boulez dirigeait Wagner à Bayreuth, il le faisait en tant que chef d'orchestre et compositeur. Quand Patrice Chéreau ou Simon McBurney ou William Kentridge mettent en scène des opéras, ils le font pratiquement en tant que créateur. C'est pas uniquement, ils vont au-delà d'un travail purement d'interprétation, ils mettent en jeu leur propre monde, et ce monde-là est du domaine de la création. Et cet ensemble de créativité crée les conditions d'une vraie vitalité du monde de l'opéra aujourd'hui.
C'est sur ce cri d'Agnès dans Written on Skin de George Benjamin par Barbara Hannigan sous le regard du compositeur que se referme le 4e épisode de ces grands entretiens avec Bernard Faucroul. Réalisation Perrine Mingui, prise de son Andreas Jaffray, mixage Pierre Monteil, attaché de production Marion Guillemet. Suite et fin de ce portrait, demain, même heure, sur France Musique. Les grands entretiens sont disponibles également en podcast sur francemusique.fr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.